Vous êtes sur RTL. RTL.
The UK has voted to leave the European Union.
Le Royaume-Uni a voté la sortie de l'Union européenne.
Journal inattendu.
J'ai tout fait pour convaincre les députés de soutenir l'accord du Brexit. J'ai essayé trois fois. Je pars sans mauvaise volonté, mais avec une immense et durable gratitude d'avoir eu l'opportunité de servir le pays que j'aime.
Le mieux pour le Royaume-Uni et pour le reste de l'Europe, c'est de partir avec ce nouvel accord en octobre. Je ne négocierai pas un nouveau report avec l'Union européenne.
Cher Lord, la priorité de mon gouvernement a toujours été d'assurer le départ du Royaume-Uni hors de l'Union européenne le 31 octobre.
12h30, 13h30.
Donc un peu plus tard, ce soir, le gouvernement vous présentera un petit projet de loi sur les élections le 12 décembre pour que nous puissions enfin appliquer le Brexit.
RTL, le journal inattendu spécial Brexit avec Vincent Parisot.
Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à Roscoff pour ce journal inattendu exceptionnel en direct et en public jusqu'à 13h30. Vous l'avez compris et on vient de le comprendre, l'invité de ce journal inattendu c'est le Brexit, mais il n'est pas venu et c'est pas la première fois qu'il pose un lapin à l'Europe et notamment à son proche voisin, la France, notamment la Bretagne. Des centaines d'entreprises, des pêcheurs, des agriculteurs sont pourtant directement concernés, impactés par ce Brexit qui n'a pas eu lieu. Pour l'instant, une épée de Damoclès dont on ne sait si elle va tomber un jour et si elle tombe, comment et quand précisément. Alors, certaines certitudes, bien sûr, elles pèsent sur les esprits, le moral, mais aussi les prévisions, les comptes des entreprises, des professionnels. C'est pourquoi on est ici au port de Bloscon, à Roscoff, siège historique de la compagnie française Brittany Ferries et ses 2,5 millions de passagers, dont 85% de Britanniques. Et pour donner la parole à ceux qui, dans ce pays de marins, attendent impuissant de savoir comment le vent va tourner. En attendant peut-être une réponse, on l'a compris avec ces élections britanniques du 12 décembre. Nous serons avec Jean-Marc Rouet, justement, le président de Brittany Ferries. Bonjour.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Avec Dominique Thomas, qui est un pêcheur breton, propriétaire de deux chalutiers de haute mer, qui pêche d'ailleurs dans les eaux britanniques et qui est également président de l'organisation Cobre Nord. Bonjour, Dominique Thomas.
Bonjour.
Merci d'être avec nous, avec le président du comité des pêcheurs de Bretagne, Olivier Lenezet, bonjour.
Bonjour.
Et le directeur de la BCI, Bretagne Commerce International, Vincent Chamaret. Alors disons-le tout de suite, la BCI, c'est l'association qui regroupe 1 millier d'entreprises bretonnes pour les accompagner vers l'international, notamment évidemment celles qui travaillent avec la Grande-Bretagne. Je crois que pour elles, vous avez mis en place ce qu'on appelle une hotline pour peut-être les rassurer, en tout cas leur expliquer. Évidemment, on va en parler dans un instant, mais tout d'abord, je vous propose de découvrir l'actualité de ce samedi de novembre. L'actualité, vous l'avez sans doute vécu en direct, c'est l'Afrique du Sud sur le toit du monde, sur le toit de la planète rugby. En finale du mondial au Japon, les Springboks se sont imposés face aux 15 de la Rose, 32-12. On retrouve Jean-Michel Rascol dans un instant. Le football, après la défaite du PSG à Dijon hier, suite de la 12e journée aujourd'hui, avec un match qui vaut cher à 17h30, Marseille-Lille à la SNCF, 8 TGV sur 10 aujourd'hui sur l'Ouest, mais attention, à partir de lundi, ça sera sans doute beaucoup plus compliqué. La marque Thomas Cook n'est pas morte, le chinois Fosun la rachète un mois après la retentissante faillite du voyagiste britannique. Et puis dans les Alpes-Maritimes, 31 clandestins pakistanais ont été découverts dans un camion. Ils ont été remis aux autorités italiennes. Le week-end va surtout être marqué par un bon coup de tabac. Alors je ne parle pas de l'augmentation du prix des cigarettes depuis hier, mais bien du vent, Valérie Quintin, parce que dans le sud-ouest, et aussi c'est vrai, ici même en Bretagne, on se prépare à la tempête, Valérie.
Alors la tempête à proprement parler, c'est
plutôt la nuit prochaine et demain, et ce sera dans le sud-ouest. Mais déjà aujourd'hui, on a un premier coup de vent sur le nord-ouest, exactement, entre le Finistère et le Pas-de-Calais notamment, avec des rafales de vent de l'ordre de 100 à 120 km/h en pointe, surtout près des côtes. Ça va souffler évidemment un petit peu moins fort dans les terres. Dans le même temps, il y a pas mal de pluie qui traverse le pays d'ouest en est. La Corse a des trombes d'eau déjà depuis 2 heures au moins, donc on a vraiment beaucoup de pluie dans le sud et dans l'est à l'heure qu'il est. Ensuite, ça va reprendre à nouveau sur le nord-ouest. Bref, c'est vraiment une journée assez moche, mais les températures sont plutôt douces globalement. 14 degrés à Douarnenez et à Guérande cet après-midi, 15 à Paris, à Rouen et à Poitiers, 16 pour Annecy et Limoges, 17 à Tarbes, 18 degrés à Biarritz et Strasbourg, 19 sur Lyon et 21 à Marseille et Ajaccio.
Voilà, et je confirme à Roscoff, météo très agréable pour l'instant. Merci Valérie, en tout cas soyez prudents sur les routes en raison du vent. Pour les retours des vacances de la Toussaint, est-ce qu'il y a des difficultés, Pierre Collard?
Oui, le trafic est assez dense dans la remontée de la vallée du Rhône en ce moment. En arrivant sur Lyon, vous rencontrez 4 km de bouchons entre Solèze et Fézin sur la 7. C'est dû à un accident qui a eu lieu un petit peu plus au nord. Et puis il y a toujours cet accident sur la 89 au kilomètre 501. C'est presque terminé, mais des opérations de nettoyage sont encore en cours. Vous ne passez que sur une seule voie à cet endroit. C'est en direction de Clermont-Ferrand.
Merci Pierre.
Le journal inattendu sur RTL.
L'Angleterre, qui avait été impériale face aux Blacks en demi-finale de la Coupe du Monde de rugby, a donc échoué en finale. Jean-Michel Rascol, c'est l'Afrique du Sud qui s'est imposée face aux 15 de la Rose, 32-12.
Une finale cadenassée, rugueuse, ennuyeuse, rythmée par les charges répétées des avants et les coups de pied de pénalité d'André Pollard, le métronome de Pretoria. 18 à 12 à la 66e minute, et au terme de ce jeu de quilles, un éclair signé de l'ailier sud-africain Makazole Mapimpi. Un petit coup de pied par-dessus, un relais, l'ailier des Sharks de Durban inscrit le premier essai. Le second sera l'œuvre de Cheslin Colby, l'ailier de poche du Stade Toulousain. Sur pratiquement le seul ballon arrivé sur son aile, il démarre, efface, accélère et conclut d'un crochet libérateur. Colby, champion de France et champion du monde la même année, danseur casqué d'une finale de brut. Le premier capitaine noir de la tumultueuse histoire Springbok, Siya Kolisi, vient de soulever la coupe William Webb Ellis. Le rugby va pouvoir contribuer à consolider la nation arc-en-ciel. Quant aux Anglais, ils laissent leur empreinte sur cette édition, vous l'avez dit, avec une merveilleuse leçon infligée en demi-finale au All Black. La France, elle, a 4 ans pour construire, rêver à la Coupe du Monde en 2023 sur ses terres. L'engagement n'empêche pas, Vincent, le talent. L'Afrique du Sud en a fait ce matin la démonstration.
Jean-Michel Rascol, merci beaucoup. Le football, 12e journée de Ligue 1, elle a débuté hier soir par une grosse surprise. C'est la défaite du Paris Saint-Germain à Dijon, 2-1. À suivre cet après-midi à 17h30, Marseille-Lille, ce soir, 5 autres match, Nîmes-Rennes, Metz-Montpellier, Amiens-Brest, Angers-Strasbourg-Toulouse-Lyon, à suivre dans le multiplex RTL, le Parisien aujourd'hui en France. Et dès 18h30, on refera le match avec Denis Balbir et son équipe. Notez que dans le multiplex, il y aura notamment un entretien avec le secrétaire d'État auprès du ministère de l'Intérieur, Laurent Nunez. Je pense qu'on fera évidemment référence aux violences et aux éventuelles violences et aux déplacements des supporters. Et puis un mot de voile, ça c'est important ici, et c'est peut-être un tournant dans la Transat. Jacques Vabre qui s'était lancé dimanche dernier, le favori des grands monocoques Charal avec Jérémy Bayou et Christopher Pratt, est passé en tête de sa catégorie. Devant, il y a bien sûr la flotte des trois multicoques, celui de Gilles Lamiré est en tête, est devant. On marque une courte pause, on est en direct de Roscoff pour un journal inattendu consacré au Brexit qui se fait toujours attendre, mais dans un instant, on parle de Thomas Cook, puisque la marque est tombée dans l'escarcelle du chinois Fosun. A tout de suite.
Vincent Parisot sur RTL.
Le journal inattendu spécial Brexit.
En direct de Roscoff, ce journal inattendu. On poursuit de parcourir l'actualité. On continue avec notamment ce qui arrive à Thomas Cook. Il y a un peu plus d'un mois, le géant du voyage britannique faisait faillite, une faillite retentissante. Aujourd'hui, le groupe chinois Fosun annonce qu'il rachète la marque Anaïs Bouissou, ce géant chinois. Il n'en est pas à son coup d'essai, hein.
Oui, Fosun, c'est un géant chinois qui mise gros sur l'industrie du tourisme en Europe. La marque Thomas Cook l'intéressait déjà avant la faillite retentissante du groupe il y a un mois. Fosun avait déjà prévu d'investir. Mais même après cette faillite, même s'il ne reste plus que le nom Thomas Cook et plus l'entreprise, Pour le chinois, ça vaut encore 13 millions d'euros. Ce que Fosun rachète, en fait, c'est l'histoire d'un nom, sa notoriété vieille de 178 ans. C'est aussi ce qui a compté pour Fosun lors d'une précédente acquisition, quand il a racheté un autre grand nom du tourisme en difficulté, le Club Med. Avec ses investissements, le chinois mise sur la destination touristique, Europe. Il a même tenté d'entrer au capital du numéro 1 mondial des domaines skiables, la Compagnie des Alpes, ce qui aurait été l'occasion d'investir dans le ski, mais aussi dans les parcs Astérix et Futuroscope. Ça n'a pas été possible devant la levée de boucliers d'élus locaux. Mais Fosun ne perd pas espoir, il a monté un partenariat avec la Compagnie des Alpes, en attendant peut-être un jour un plus gros investissement.
Merci Anaïs Bouissou. La marque Thomas Cook, qui devient chinoise, Jean-Marc Rouet, président de Brittany Ferries, je profite de votre présence ici même pour parler Brexit, pour évoquer quand même cette information. Est-ce que ça change quelque chose, ce rachat, pour le tourisme britannique en France? Je rappelle que 85% de votre clientèle est britannique, Brittany Ferries.
Ben, pas vraiment, puisque Thomas Cook, c'est une marque qui est très connue, elle change de propriétaire, mais très concrètement, les Bretons n'ont jamais eu peur des géants, donc qu'ils soient étrangers ou qu'ils soient français. Donc très concrètement, ça ne change pas grand-chose. La seule chose, c'est que véritablement, dans un contexte qui se dégrade avec le Brexit, les destinations, Grand Ouest, doivent devenir encore plus pertinentes. Donc, c'est-à-dire qu'il faut qu'on remette des moyens à la communication. Les Anglais restent nos voisins et... À l'avenir, peut-être que le voyage de proximité sera plus dans l'air du temps avec l'empreinte carbone.
En tout cas, on y reviendra. Merci beaucoup de cette réaction à chaud, Jean-Marc Rouet. On y reviendra sur ce tourisme britannique à l'occasion du Brexit qui se fait toujours attendre. Encore quelques informations. Attention, si vous devez prendre le train sur l'axe atlantique, il faut compter en moyenne avec 8 TGV sur 10 aujourd'hui. En revanche, pour lundi, la situation devrait être plus compliquée avec vraisemblablement un train sur deux en moyenne. 31 clandestins pakistanais découverts, cachés dans un camion sur l'autoroute A8 dans les Alpes-Maritimes. Ça s'est passé au péage de la Turbie. Parmi eux, plusieurs adolescents et conformément aux accords de 2015, ils ont tous été remis aux autorités italiennes. Appuyé après l'Ocean Viking, une solution européenne a été trouvée hier soir pour le navire humanitaire Alan Kurdi avec 88 réfugiés à bord. Ils vont pouvoir être débarqués dans les Pouilles au sud de l'Italie. L'Allemagne et la France vont en accueillir une soixantaine. Enfin, vous vous souvenez sans doute de l'affaire Brice Tatton, du nom de ce supporter du football club de Toulouse, tué en 2009 à Belgrade lors d'un match de Coupe d'Europe de foot. Eh bien, on a appris ce matin que le hooligan serbe condamné pour ce meurtre, libéré en 2017, a été assassiné la nuit dernière, toujours à Belgrade. Une enquête est ouverte. Et en Serbie, les liens entre hooligans et le milieu ne sont pas vraiment un secret. Mais vous l'avez compris, nous sommes donc ici à Roscoff pour un journal inattendu, exceptionnel, autour de ce Brexit qui n'en finit pas d'être reporté. Ce Brexit, il n'a donc pas eu lieu le 21 octobre. Pendant encore au moins 3 mois, jusqu'au 31 janvier, les Britanniques vont donc pouvoir encore tartiner leurs scones, ces fameuses brioches délicieuses à l'heure du thé. Mais justement, le Brexit, la manière dont les politiques l'ont géré jusqu'à présent, c'est pas vraiment leur tasse de thé. On peut dire ça. Bonjour Marie Billon.
Bonjour.
Vous êtes notre correspondante à Londres, la correspondante d'RTL. Le Brexit a été repoussé. Vive le Brexit, c'est ça ?
C'est vrai qu'en tout cas, il est au cœur des élections législatives qui sont maintenant prévues le 12 décembre. Le Parlement de Westminster n'est pas encore dissous, mais déjà, dans un hôtel juste à côté, les anti-Brexit ont annoncé la création d'un site internet pour aider au vote tactique. Naomi Smith est la directrice de l'organisation Best of Britain.
Si seulement 30% des électeurs pro-européens votent de manière tactique, cela suffit pour empêcher Boris Johnson d'obtenir une majorité absolue. Et c'est pour ça que nous lançons getvoting.org, pour avoir un Parlement qui reflète l'opinion nationale. Nous sommes désormais un pays qui veut rester dans l'Union européenne.
Alors c'est vrai que quasiment tous les sondages faits depuis début 2019 montrent que s'il y avait un second référendum, eh bien le Brexit serait rejeté.
D'accord, mais un nouveau scrutin n'est pas prévu, donc et c'est encore et toujours l'incertitude aujourd'hui, outre-Manche.
Oui. Et puis d'ailleurs, le risque d'une sortie sans accord le 31 janvier 2020 est encore là. Et puis ça inquiète beaucoup d'éleveurs dans tout le pays, notamment en Écosse. Stuart Campbell élève des vaches des Highlands dans sa ferme de la région d'Aubagne. Il les vend ensuite dans plusieurs pays européens, notamment en France.
When Brexit comes in, On craint d'avoir moins d'acheteurs s'il y a de gros droits de douane à payer ou qu'on ne puisse pas remplir les conditions sanitaires d'exportation. Que les vaches nous restent sur les bras.
Alors le mois dernier, Stuart a même renoncé au tout dernier moment à acheter de nouvelles brebis. Il les élève pour leurs agneaux qu'il exporte aussi d'ailleurs beaucoup en France.
Et puis il faut aussi parler de ceux qui attendent, ceux qui préfèrent ne pas faire grossir leur business par prudence. Et ceux d'ailleurs qui n'y parviennent pas du tout en raison de ce Brexit.
Et oui, et justement, pour rester dans le domaine agricole, je suis allée de l'Écosse au nord de l'Angleterre, dans la région du Yorkshire, pour rencontrer John Millary. Cet ancien policier a fondé en 2017 l'entreprise Tech Tracer pour prévenir le vol de bétail. Il travaille avec des dizaines d'éleveurs en coordination avec les forces de l'ordre locales, mais il a du mal à répondre à la demande.
Nous en sommes à une étape où nous avons besoin d'investissement. Mais ce n'est plus aussi facile qu'avant. Sans le Brexit, ça aurait été moins compliqué.
Alors une étude a montré début octobre que les investissements avaient baissé de 11% depuis le référendum. C'est 23 milliards d'euros en moins injectés dans l'économie britannique.
Alors on dit toujours ce que le milieu de la finance, que les entreprises n'aiment pas, c'est l'incertitude, Marie. Donc voilà, maintenant l'important c'est d'en finir d'une manière ou d'une autre.
Ben, c'est exactement ce qu'on entend très souvent. Le Royaume-Uni flotte entre deux eaux et ça n'est bon pour absolument personne.
J'ai voté pour la sortie, mais ce qui m'énerve, c'est qu'ils nous ont mis en charge de la décision et maintenant ils nous la retirent. Je ne comprends pas comment un gouvernement se trouve des excuses continuelles comme ça. Vous vous rendez compte si on faisait pareil, nous, au travail ?
Alors, même si aller voter en décembre, ça casse un petit peu quand même la joie de Noël, au moins les Britanniques ont l'impression que, d'une manière un peu détournée, c'est vrai, on leur remet le choix du Brexit entre les mains.
Merci beaucoup Marie Billon. Et nous, eh bien, de l'autre côté de la Manche de la mer, on attend et c'est visiblement ça le problème. D'ailleurs, je voudrais juste en dire un mot avec vous, Vincent Chamary, parce que vous représentez environ un millier d'entreprises bretonnes. La moitié travaille, commerce avec la Grande-Bretagne, c'est ça?
Oui, et pas tout à fait. Donc, on représente, nous avons des adhérents qui sont un millier d'entreprises, mais effectivement, dans toute la Bretagne, nous aidons toutes les entreprises, qu'elles soient adhérentes ou pas à Bretagne Commerce International. Et parmi, effectivement, les entreprises bretonnes, il y en a à peu près 4000 qui font de l'import et de l'export. Il y en a à peu près 500 qui travaillent avec le Royaume-Uni.
Et est-ce que, finalement, j'allais dire, vous êtes reconnu, là, en parlant au nom des entreprises françaises, dans ce qu'on entendait côté britannique, c'est-à-dire que dans cette incertitude, on n'investit pas parce qu'on n'a aucune vision d'avenir.
C'est clair, c'est la première conséquence qu'il y a eu, c'est le report de toute décision pour des gens qui avaient des projets d'implantation au Royaume-Uni pour leur développement commercial. C'est effectivement un contraste malgré tout dans certains domaines, puisque par exemple dans le domaine de l'agroalimentaire de produits finis, il y a eu plutôt des tendances de surstockage au moment où arrivaient les votes qui auraient dit que la période était...
Donc les Anglais stockent.
Donc il y a des stockages tous les trois mois.
Et ils stockent de la nourriture.
On stocke de la nourriture. Et donc, effectivement, dans les flux export de Bretagne, on voit moins apparaître aujourd'hui une catastrophe qu'elle n'apparaîtra après les décisions.
On va évidemment en parler de ce Brexit qui est annoncé, qui n'arrive toujours pas, avec vous, Vincent Chamary, avec le président de Brittany Ferry, Jean-Marc Huët. Et puis, dans un instant, on va parler de la pêche, parce que c'est évidemment le très gros dossier dans la région de ce Brexit, avec le président du comité des pêcheurs de Bretagne et un pêcheur, Dominique Thomas. Je vais lui demander comment il envisage l'avenir. À tout de suite.
Le journal inattendu spécial Brexit sur RTL.
J'ai tellement honte de voir où est tombé mon pays. En tant que Britannique, j'ai honte. C'est humiliant, frustrant de voir ça. Je suis en colère. Mais qui sait ce qui va se passer? On a l'habitude de dire qu'en une semaine, il se passe beaucoup de choses en politique. Mais chez nous, tout change en une heure.
12h30, 13h30 sur RTL.
Vincent Parisot.
On vient d'entendre cette Britannique expliquer qu'elle n'essaie plus au donner de la tête, que tout change en une heure. Évidemment, on parle des conséquences de ce Brexit qui n'arrive pas. On ouvre le dossier pêche, c'est le gros dossier ici à Roscoff et dans la région, avec le président du comité des pêcheurs de Bretagne, Olivier Lenezet. Et donc, Dominique Thomas, je le disais, pêcheur à Roscoff, vous avez deux chalutiers de haute mer qui pêchent dans les eaux britanniques. Comment vous vivez cette situation? Cette absence de perspective, est-ce que vous savez ce que vous ferez dans un an?
Non. Actuellement, comme moi dans mon cas, j'ai un bateau qui pêche à 95% les eaux britanniques, l'autre à 87%, on n'a aucune visibilité. Donc là, on attend.
Ça veut dire que vous vous préparez à tous les scénarios, y compris au pire. Le pire étant ce qu'on appelle le no deal, le Brexit dur. Ouais. Qu'est-ce qui se passerait pour vous à ce moment-là ?
Ça serait une catastrophe économique pour rien que pour les Côtes d'Armor. Et il y a exactement 26 hauturiers de 20 à 25 mètres qui travaillent dans les eaux britanniques, à plus de 50%. Plus deux autres unités neuves qui doivent arriver.
Et pour vous, concrètement, qu'est-ce que vous faites de vos bateaux à ce moment-là ?
Alors, au tout début, on resterait dans les eaux françaises, en sachant qu'il y aurait un très, très, mais énorme souci de cohabitation, c'est-à-dire les artisans comme nous, nos amis les Belges et Hollandais, tous les bateaux de l'Union européenne qui viendraient
dans les eaux françaises,
les filayeurs, les caseilleurs.
Mais il n'y aurait pas de la place pour tout le monde, Olivier Lenezet, dans cette hypothèse qui n'en est qu'une, qui est celle du Brexit dur. Alors, où on empêche les pêcheurs français d'aller dans les eaux britanniques.
Avec ou sans accord, de toute manière, il y aura des problèmes de cohabitation. On ne peut pas redéployer plusieurs milliers de navires européens dans les eaux européennes du jour au lendemain. Ça, c'est la vraie problématique, qui est une problématique, je dirais, de cohabitation, mais qui va aussi dans l'approche d'éviter des conflits en mer avec des batailles navales qui seraient entre navires européens. Donc ça, c'est le premier impact immédiat.
Envisagez cette hypothèse de bataille navale ?
Oui, évidemment. Évidemment qu'on l'envisage à partir du moment où on aura un espace restreint pour plusieurs navires, plusieurs milliers de navires. Il faut se rendre compte, le débarquement de Normandie, c'est le débarquement à l'existant là, des navires de pêche européens. C'est-à-dire très clairement, dès qu'on les sort des eaux du Royaume-Uni, aujourd'hui c'est 60% des ressources européennes sont pêchées dans les eaux du Royaume-Uni. Donc ça c'est hyper important. Pour la pêche bretonne, en valeur, c'est 50% de la pêche française. Donc c'est quand même pas rien. Derrière, il va y avoir des vrais problèmes de cohabitation, mais aussi dans les eaux irlandaises, des eaux du sud de l'Irlande. Donc il va y avoir un redéploiement. Maintenant, il faut qu'on puisse l'organiser. Mais pour pouvoir l'organiser, il faut qu'on ait en même temps les éléments du Royaume-Uni, de quelle façon ils souhaitent sortir. Et on sait très bien qu'ils souhaitent sortir, mais on ne sait pas ce qu'ils veulent. Donc le vrai sujet est là. Et pour terminer, il ne faut pas oublier que l'effet n'est pas que en mer, il sera surtout aussi à terre, avec derrière un cataclysme qui sera sur les places commerciales, les places aussi de premiers acheteurs, qui soient les poissonniers et les marieurs, mais aussi les transformateurs et les distributeurs. Donc ça va être vraiment un cataclysme important, mais on a quand même des atouts pour pouvoir faire justement plier cette approche du Royaume-Uni de sortir sans accord.
Ah, vous voulez faire plier les Anglais. Ça, c'est... Alors, dites-nous comment vous allez faire plier les Anglais, Olivier Lenezet. Vous faites un peu sourire Dominique Thomas, quand même, qui est en face de vous, le pêcheur de Roscoff.
Oui, mais on a quand même des atouts qui sont qu'aujourd'hui, le Royaume-Uni exporte ses produits de la mer presque en totalité dans l'Union Européenne et entre autres en France.
Vous voulez dire que les Anglais ne mangent pas de poisson ?
À part leur fish and chips...
Voilà. Et 19% du marché français vient des eaux britanniques. Quand même beaucoup.
Oui, c'est énorme. Mais de toute manière, c'est un vrai sujet. C'est-à-dire que, de toute manière, un pays qui sort de l'Union européenne ne peut pas un pays qui peut sortir gagnant. On ne peut pas aller dire qu'on doit être dans un vivre ensemble dans l'Union européenne et sortir et avoir le bénéfice. Très clairement, il faut qu'il y ait certes un accord, mais un accord de réciprocité des eaux et de la ressource.
La question qui se pose quand on n'a pas de perspective comme ça, c'est de savoir si on investit, si on achète un bateau, si on embauche. Vous êtes dans cette situation-là, vous, Dominique Thomas, c'est-à-dire, bon, bah...
Non. Moi, dans mon cas, de toute manière, on est obligé d'avoir tant de personnes à bord.
Oui.
Donc,
imaginons le pire des scénarios, le Brexit dur, le no deal, on vous dit que vous ne pouvez plus aller pêcher en Grande-Bretagne. Est-ce que pour vous, ça se traduit concrètement par des décisions en termes d'emploi ou d'investissement ?
Investissement, je pense.
Il n'y en aura plus.
Il n'y en aura plus.
Ouais, c'est ça.
Ensuite. On a tous fait des dossiers d'arrêt temporaire, mais on n'a pas acheté des bateaux pour les laisser le long du quai. Donc, je pense que ça sera un laps de temps, si vraiment il y avait un Brexit dur, le temps de trouver des accords, mais de retourner dans les eaux britanniques. Sinon, bah, c'est la faillite pour tout le monde. Sans parler des criers, de tout, comme disait Olivier, tout va suivre derrière.
Ce que j'entends, c'est l'annonce d'une guerre, finalement. Hein. Alors, une guerre, peut-être sans les armes, mais d'une guerre maritime. Non ?
Bah, c'est ce que l'on a connu déjà par le passé.
Avec la coquille Saint-Jacques, il y a eu des histoires.
Oui, mais ça, c'est très récent. Et encore, je dirais, c'est un vrai sujet, mais ça montre bien. Mais il y a eu dans les années, tout le monde oublie, mais dans les années 75-80, ce qu'on appelle les accords pèlerins dans le golfe de Gascogne, où il y a eu 8 ans de bataille navale entre navires français et espagnols. Bon, là, aujourd'hui, soyons très clairs, la situation... aller qu'on est suspendu à une décision de sortie avec ou sans accord du Royaume-Uni. On se doit, nous, d'être avec une approche qui est d'un no deal, très simple. C'est que s'il n'y a plus d'accès aux eaux, que doit faire, et moi en tant que représentant de la pêche bretonne, je dois avoir une réflexion qui doit permettre de pouvoir soit de garder l'existant et d'avoir une visibilité, au moins de trouver pour une partie des navires qui ne pourront pas se replier, de trouver une sortie, on va dire, qui leur permette justement de ne pas se retrouver dans une situation que les navires restent le long du quai définitivement.
On va en parler évidemment de ces différentes hypothèses, le Brexit dur, le Brexit avec accord, ou finalement peut-être aussi pas de Brexit du tout, pourquoi pas. Et si vous aviez fait tout ça pour rien ? On y revient dans un instant, on marque une pause, le rappel de l'info et on vous retrouve tous ici en direct de Roscoff. A tout de suite, on est au restaurant, c'est ici. C'est le décalage avec Roscoff, il est 13h02.
Journal inattendu sur RTL.
13h, les titres de l'actualité, Vincent Parizeau.
Et l'actualité de ce samedi 2 novembre, c'est l'Afrique du Sud sur le toit de la planète rugby. Les Sud-Africains se sont imposés en finale du mondial au Japon. Victoire des Springboks face aux 15 de la Rose, 32-12. Le football, après la défaite surprise du Paris Saint-Germain à Dijon hier soir, suite de la 12e journée, avec un match important cet après-midi à 17h30. Marseille-Lille à la SNCF, 8 et TGV sur 10 toujours aujourd'hui sur l'axe Atlantique. Attention, à partir de lundi, cela pourrait être plus compliqué avec sans doute en moyenne un TGV sur 2. La marque Thomas Cook n'est pas morte. Le chinois Fosun la rachète un mois après la ressentissante faillite du voyagiste britannique. Après l'Ocean Viking, un nouvel accord européen pour un autre navire humanitaire qui transportait des migrants. Ils vont débarquer dans les Pouilles en Italie et seront accueillis essentiellement en France et en Allemagne. Dans les Alpes-Maritimes, 31 clandestins pakistanais ont été découverts dans un camion. Et puis la météo, avec donc des pluies, du vent, mais des températures quand même clémentes cet après-midi. Attention, en Corse, où de fortes pluies orageuses vont sévir jusqu'en fin de journée. Et puis la nuit prochaine, l'avis de tempête est confirmé pour le sud-ouest, avec un autre renforcement des vents, forte houle en Aquitaine. Température cet après-midi de 14 à 21 entre la Somme et la Corse, 15 degrés à Paris, comme... à Roscoff, on n'est pas dépaysé.
Allez, malgré le journal inattendu spécial Brexit sur RTL.
Je voulais rester dans l'Europe et à un moment j'ai cru que nous allions pouvoir rester. Mais maintenant, évidemment, ce n'est plus possible. Mais qui sait, peut-être qu'un jour nous vous demanderons de revenir et peut-être que vous accepterez de nous laisser revenir.
Intéressant, et ça ne manque pas de sel ce que dit ce Britannique. On va sortir parce qu'on a voté, mais peut-être qu'on vous demandera de revenir. Et quand on entend ça, on se dit d'accord, mais il y en a qui ont déjà beaucoup investi autour de ce Brexit. Je pense à vous, évidemment, à la Brittany Ferries que vous présidez, Jean-Marc Rouet. Je rappelle que votre clientèle est à 85% britannique, donc vous êtes évidemment en première ligne dans ce dossier. Comment vous l'avez préparer ce Brexit que vous avez d'abord attendu en début d'année, puis en milieu d'année, et puis en fin d'année, et puis peut-être l'année prochaine?
Déjà, pour commencer, une entreprise comme Brittany Ferries, comme toutes les entreprises qui sont sur le transmanche français, on est dans le Brexit depuis le 26 juin 2016.
Depuis que c'était...
En fait, dès la première nuit, comme vous le dites, 85% de la clientèle est britannique, et donc 85% de la clientèle nous paye en livres sterling. Et dès la première nuit, la livre a perdu plus de 10%. Mmh. Donc, très concrètement, pour l'entreprise Brittany Ferries, bouger beaucoup de choses, c'est compliqué, parce que si je cumule les trois années passées et celles celle qui vient, qui risque de ne pas être bonne parce qu'on est encore dans le flou, on est sur une perte cumulée qui tourne autour de 100 millions d'euros et je ne prends en compte que l'écart de change.
100 millions d'euros, et ça c'est évidemment c'est du manque à gagner, c'est uniquement l'écart de change,
c'est du résultat,
c'est
en
pas
moins.
La baisse de non. La fréquentation.
Non, absolument pas. Il faut que,
c'est, ça, c'est parce que plus. Pour eux c'est plus cher maintenant de venir en France.
Voilà, c'est ça, ils viennent sur un territoire où ils ont perdu entre 15 et 25% de pouvoir d'achat quand ils sont en vacances. Donc c'est vrai que prendre des gros paris risqués, évidemment, on a plutôt choisi la gestion bon père de famille. Et c'est au niveau donc, des places portuaires que l'on a investi. Alors notamment, alors, c'est pas forcément l'opérateur Brittany Ferries qui est usager des ports, mais c'est les propriétaires et les concessionnaires. Donc c'est la région Bretagne en ce qui concerne Roscoff et le concessionnaire, donc CCI 29 Finistère pour le concessionnaire. Donc ils ont dû préparer des équipements complémentaires de manière à maintenir la fluidité qui
pour
va être impactée
par les contrôles. Pour éviter qu'il y ait un engorgement, des camions et autres. C'est ça qu'on appelle la frontière intelligente.
Oui, c'est tout à fait ça. En fait, il y a trois partenaires dans la frontière intelligente. Il y a la DGDDI, donc le service, la direction générale des douanes, les propriétaires et les concessionnaires portuaires et l'usager du port, c'est-à-dire le transporteur maritime. Et en fait, à trois, on essaye de remplir au maximum les conditions du passage douane, c'est-à-dire toute la documentation qui finalement existe déjà pour un bateau qui vient par exemple d'Asie avec de la marchandise. Donc on a aujourd'hui à organiser la même chose. C'est vrai que pour le coup, Roscoff, là où on est aujourd'hui, n'a jamais connu cette situation, puisque elle est née, le port de Roscoff a commencé son activité par le biais de Brittany Ferries le 2 janvier 1973, et il se trouve que 24 heures avant, la Grande-Bretagne était rentrée dans le marché, dans la CEE de l'époque.
Donc finalement, vous êtes lié à la Grande-Bretagne, et donc pour vous, le Brexit, c'est j'allais dire, c'est presque vital. C'est votre entreprise est directement impactée. Là, il n'y a pas à tortiller.
Bah, complètement. D'abord, comme je viens de vous dire, Brittany Ferries est née avec l'entrée du Royaume-Uni au sein de la CE. Donc forcément, mon travail à moi et toute l'équipe qui travaille avec moi, c'est de faire en sorte que ce ne soit pas la fin de Brittany Ferries à la sortie.
Alors, qu'est-ce que vous avez ressenti la semaine dernière quand vous avez compris clairement que ce ne serait pas le 31 octobre? Est-ce que c'était un soulagement? Où est-ce que vous êtes dit, finalement rien n'est réglé et ce n'est que reculer pour mieux sauter?
Un soulagement à partir du moment où le no deal est évité.
Ouais.
Donc à chaque fois que le no deal est évité, c'est un soulagement. Maintenant, comme Olivier et M. Thomas, on est évidemment dans la question de savoir à quelle sauce on va aller manger. Donc le plus tôt qu'on aura des réponses, évidemment, c'est le plus facile parce qu'on doit répondre aussi à nos collaborateurs. Et chez Brittany Ferries, il y en a quasiment 3000. Donc. Soulagé, après, j'ai envie de dire que finalement, allez, comme le soleil revient sur Roscoff, j'ai envie d'avoir la même lueur d'espoir en disant, à chaque fois qu'on a reculé le no deal, c'est peut-être le no deal qui s'efface. Autrement dit, véritablement, personne n'en a envie.
Oui, c'est ça. Depuis le début, c'est-à-dire que vous vous préparez sans le vouloir.
Nous, on a une commande de l'État.
Oui,
le gouvernement français nous demande de nous préparer au no deal.
Oui. Vincent Chamaret, vous représentez un millier d'entreprises bretonnes. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ce que vient de dire le président de Brittany Ferries, Jean-Marc Rouet?
Tout à fait. Et en particulier, comprendre que la préparation a été faite dans le cadre d'un no deal, comme tu l'as très bien exprimé, c'est-à-dire qu'il fallait préparer tout le monde au pire des cas. Et aujourd'hui, si on garde le soleil qui pointe sur Roscoff, effectivement, on se rend compte qu'il y a peut-être un espoir que, pour des raisons de politique intérieure, le Royaume-Uni, finalement, accepte la sortie négociée qui permettra un certain nombre de reports d'application des choses et, en tout cas, de ne pas se trouver dans la situation la pire, qui était la pire pour les entreprises, quelles qu'elles soient. Je relativiserai forcément au niveau régional, puisque nous sommes financés par la région, donc je vais parler de l'aspect régional. Le Royaume-Uni ne représente que 8% des exportations des Bretons.
Ouais.
Donc ça relativise. Mais je suis complètement d'accord sur l'impact du Brexit qui a déjà eu lieu, tout simplement par la dévaluation de facto de la monnaie. Et un des effets inconnus en France souvent, mais qui est assez amusant, c'est qu'il y a eu un effet chocolat, comme on l'a appelé, qui a été qu'on a baissé les quantités dans les produits qui sont vendus au Royaume-Uni, les produits alimentaires,
ah oui.
de
façon à garder le prix facialement du même prix en livres sterling, mais en fait, il y a 15% de moins de matière.
Ah, effectivement, pour contrer la dévaluation, on leur propose maintenant des tablettes de Toblerone à 80 grammes, alors qu'ils imaginent qu'ils payent 100 grammes, les Anglais.
Ben, je ne voulais pas faire de publicité pour le chocolat, mais oui. On a appelé l'effet chocolat, en tout cas.
Puisqu'on parle d'alimentation, en termes de contrôle sanitaire, là, je parle aussi au président de Brittany Ferries, qu'est-ce qui a été prévu aujourd'hui si jamais un Brexit négocié d'ailleurs entre en vigueur?
Ben, en fait, nous, notre responsabilité, c'est de faire en sorte que la fluidité soit la même. Donc, il faut que ce soit rapide, aussi rapide qu'aujourd'hui. Autrement, tout simplement, l'armorique qui est à quai, il n'est pas capable de faire autant de traversées dans la semaine si on le contraint à rester au port, attendre.
Mais comment on fait les contrôles sans bloquer les camions?
Ben, on anticipe, c'est ce qu'on a appelé la frontière intelligente. Alors dans le cas précis du CIVEP, enfin des contrôles sanitaires et vétérinaires, là par contre on ne peut pas anticiper. Il y a donc sur le port de Roscoff depuis maintenant quelques semaines, puisqu'on avait prévu d'être prêt pour la nuit dernière, très concrètement il y a ce qu'on appelle un CIVEP, un point de contrôle sanitaire et vétérinaire. Toute marchandise, je dirais, allez, pour résumer et que tout le monde, le grand public le comprenne, qui n'est pas emballée, devra passer au contrôle sanitaire ou vétérinaire et donc quelque part montrer patte blanche et potentiellement rester en quarantaine. Donc c'est vrai que pour ces camions-là ou ces transporteurs de marchandises-là, il y aura un contrôle douanier.
Vincent Chamaré.
Dans notre malheur, le report successif a permis justement à l'État, et ça c'est à noter parce que quand ça marche bien, il faut quand même le dire, d'amener les structures à la fois de contrôle sanitaire, les vétérinaires qui ont été nommés, les douaniers qui ont été nommés, les installations portuaires qui ont été financées en partie par la région et par l'État. Donc tous les retards successifs ont permis que tout soit à peu près prêt, effectivement, dans ce que vient d'expliquer M. Rouy.
Allez, on marque une courte pause dans ce journal inattendu spécial Brexit et on se retrouve dans un instant. C'est vrai, et nos intervenants l'ont souligné avec un joli rayon de soleil sur cette ville, ce port magnifique qu'est Roscoff. On est accueillis comme des princes ici, à 7 ici. Et on se retrouve dans un instant sur l'antenne d'RTL. À tout de suite.
Le journal inattendu spécial Brexit sur RTL.
À cause du Brexit, faire des affaires est plus coûteux et plus compliqué. Fournir les mêmes services va tout simplement coûter plus cher. Ça m'enrage de penser qu'on va quitter notre plus gros marché. Et je ne parle que de l'industrie financière. On pouvait faire des affaires sans contrainte. Et maintenant, on veut créer des barrières. Ça n'a aucun sens.
Vincent Parisot sur RTL.
Ce Britannique de la difficulté aujourd'hui de faire des affaires avec cette menace de Brexit. On est toujours avec Jean-Marc Houet, le président de Brittany Ferries, avec Dominique Thomas, qui est pêcheur à Roscoff, avec le président du comité des pêcheurs de Bretagne, Olivier Lenezet, et avec le directeur général de BCI Bretagne Commerce International, Vincent Chamaret. Est-ce qu'il y a eu, justement, si on réagit à ce que disait ce Britannique, un affaissement du business, des affaires entre la France, plus particulièrement la Bretagne et le Royaume-Uni?
Particulièrement pour la Bretagne, il y a eu une baisse sensible parce que la progression des exports a été de 5% vers le Royaume-Uni au lieu de 10% en général. Donc ça veut dire qu'il y a quand même moins de hausse par rapport au Royaume-Uni. Mais comme je l'ai dit tout à l'heure, quand on enlève les automobiles, qui font partie des exportations bretonnes grâce à l'implantation de PSA, mais quand on les enlève des statistiques de douane, on se rend compte que c'est l'agroalimentaire qui draine les grosses exportations, tout ce qui est viande, laitage, produits laitiers, etc.
C'est même historique, hein, d'ailleurs. Je tiens à souligner que ici à Roscoff, hein, on est dans le pays des jaunis. C'est ceux qui allaient en Grande-Bretagne proposer notamment des oignons, mais effectivement toutes sortes de légumes bretons.
Absolument. Hein.
Et c'est d'ailleurs comme ça qu'est née la compagnie Brittany Ferries.
Enfin, l'idée de la Brittany Ferries est née en effet sur l'organisation agricole bretonne qui cherchait évidemment à se développer au niveau des marchés export et la Grande-Bretagne. Comme disait mon prédécesseur, on est plus près à Roscoff de Plymouth que l'on est de Rennes et on est plus près de Londres que l'on est de Paris, toujours de Roscoff. Donc évidemment, il y a marché. D'ailleurs, ce qui me dérange dans le Brexit, moi, le breton que je suis, c'est que la Bretagne va se retrouver bien plus désenclavée qu'en 1970. Parce que l'Europe s'est élargie depuis 1973 vers l'Est, et donc s'éloignant de la Bretagne, et que la Bretagne et la République d'Irlande vont se retrouver complètement isolées. Donc c'est vrai que le sujet du désenclavement, il est majeur. Il est plus majeur qu'en 1970 encore. D'autant plus à la vitesse où les échanges se font, puisque vous savez très bien qu'on est totalement mondialisé et totalement digitalisé. Donc très concrètement, je
considère que la Bretagne doit être réintégrée au niveau européen dans les zones défavorisées de l'Europe, comme la République d'Irlande.
C'est une demande que vous faites.
Ah ben complètement, et on n'a pas besoin d'attendre la solution du Brexit pour ça, on sait qui viendra.
Et j'ai l'impression que vous êtes soutenu dans ce combat par le président du comité des pêcheurs de Bretagne, Olivier Lenezet. Hein.
Oui, non mais tout à fait, Jean-Marc dit une chose qui est tout à fait existentielle, c'est qu'aujourd'hui, la Bretagne, une fois le Royaume-Uni sorti de l'Europe, sera la région la plus à l'ouest de l'Union européenne.
Et donc, qu'est-ce que ça va changer, ça, alors ?
Ça change beaucoup de choses. C'est-à-dire que très clairement, et il est important de savoir, c'est que comme la Bretagne est très à l'ouest, déjà des grands marchés, qu'ils soient de poissons ou agricoles, on le sera encore d'autant plus demain, avec une difficulté de pouvoir justement se développer et développer la région. Donc il est important que l'Union européenne, au même titre que l'État français, prenne en compte ce paramètre, qui n'est pas neutre, parce que tout à l'heure, vous parliez du Royaume-Uni, mais on a le Brexit devant notre porte, avec les îles anglo-normandes qui sont à quelques dizaines de kilomètres de la Bretagne, qui font partie aussi où il y a plus de 400 navires de pêche qui travaillent dans ces eaux de la baie de Granville. Donc la Bretagne aujourd'hui va se retrouver dans une situation qu'elle a connue dans les années 70, et il est important qu'il y ait une prise en compte, qu'elle soit sociale, économique, environnementale et aussi financière, qu'il va falloir soutenir cette région la plus à l'ouest pour éviter justement une implosion économique et sociale.
Si je peux me permettre...
Oui, Jean-Marc, oui.
Si je peux me permettre, en fait, l'économie ne se gère pas par place. Oui, je disais, si je peux me permettre, l'économie ne se gère pas par place.
Oui.
L'économie sur une région, c'est un millefeuille. C'est-à-dire qu'on additionne tous les métiers. Et si on en a un qui est déstabilisé, c'est tout le millefeuille qui descend. Autrement dit, c'est l'impact, il est sur tout le monde. Il est sur le commerçant du coin, il est sur le grand industriel du pays. Donc, on va perdre un marché de 75 millions d'habitants. Alors, on ne va pas le perdre totalement, vous l'avez rappelé, monsieur. Mais on va perdre des pourcentages. Donc, on est véritablement impacté. Je n'ai pas l'impression aujourd'hui que la Bretagne soit la région la plus riche d'Europe. Et très concrètement, si on l'a fait, c'est avec des efforts de la part des Bretons. C'est bien nous qui avons réclamé ce désenclavement en 1970, ou du moins nos anciens. J'ai envie de dire que le sujet, il est encore plus d'actualité en 2020 qu'il n'était en 1970.
Vincent Chamaret, vous êtes d'accord? Et est-ce que le problème, c'est pas aussi que dans cette affaire, la France est forcément perdante, parce que les exportations bretonnes vers le Royaume-Uni sont supérieures aux importations britanniques vers la France?
C'est vrai, c'est un des rares pays avec lequel la Bretagne a un excédent du double de, ouais, ses exportations. Ce que je voulais dire, c'est que la prise de conscience du millefeuille que ça représente a été, depuis le premier jour, depuis le vote des Anglais. Le comité, le CESER, le Conseil économique et social régional, a fait une étude dès le mois de juillet, qui suivait donc un mois après le vote des Anglais, pour aller évaluer les impacts variés et divers, y compris pour les retraités anglais. Il y en a 10 000 retraités anglais qui déjà perdent 15% de leur pouvoir d'achat depuis la dévaluation de facto de la livre. Donc il y a eu une étude vraiment très sérieuse financée et réalisée par le CESER et tous les partenaires, y compris autour de la table, pour permettre d'évaluer la multitude des impacts qu'avait ce Brexit. La seule chose qu'il faut voir aujourd'hui, évidemment avec toutes les difficultés que cela pose, je ne l'ai pas dit tout à l'heure, mais monsieur de la Pêche le disait, 40%, 35% exactement des importations en Bretagne, c'est du poisson et des produits liés au poisson. Donc vous voyez que ça a une incidence considérable. Mais malgré tout, les derniers événements, si on revient à votre première question, les derniers événements laisseraient à penser que si la situation politique anglaise se stabilisait autour de ce qui est dit, on partirait dans une optique où il n'y aurait pas cette situation de crise qui était le no deal. Alors c'est ça qu'il faut espérer, et c'est pour ça qu'on s'est tous mobilisés, c'est pour essayer d'aider nos entreprises à se préparer au no deal.
Alors on va croiser les doigts, marquer une petite pause, le temps de les croiser, de les décroiser, et puis effectivement envisager cette hypothèse ou celle peut-être d'un Brexit plus dur, et conclure cette émission évidemment avec vous tous autour de cette table en direct de Roscoff. A tout de suite sur RTL.
Vincent Parisot,
le journal inattendu spécial Brexit sur RTL.
Nous, les Britanniques, on en a marre. Mais on n'arrive pas à se mettre d'accord. C'est notre problème. C'est une période horrible pour tout le monde, pro et anti-Brexit. Rien ne se passe comme on nous avait dit que ça se passerait quand on a voté en 2016. Tout ça augmente ma tension artérielle plutôt que mon niveau d'anxiété.
Voilà, effectivement, ça lui fait monter la tension, hein, à ce Britannique. À vous aussi. On continue évidemment à parler des effets de cette longue attente autour du Brexit. Dominique Thomas, vous leur parlez aujourd'hui à ces pêcheurs britanniques qui finalement alors sont pas dans la même situation que vous, mais vivent dans l'incertitude quand même.
Ouais. On voit que ça a changé quand même depuis un ou deux ans, oui.
C'est-à-dire ?
On est chez eux. C'est-à-dire qu'avant, il y avait ils étaient plus diplomates, ils nous appelaient quand ils arrivaient mettre leur filet et tout. Maintenant, c'est on met notre filet et vous partez.
Ah, eux, ils sont déjà dans la logique du Brexit.
Ah oui, ouais. Ils attendent qu'une chose. Les pêcheurs sont pour le Brexit, eux.
Ouais.
Pêcheurs anglais.
Et ils vous le font comprendre ?
Ah ben oui.
Ouais.
L'autre jour, j'ai un de mes bateaux qui était prioritaire, il a failli se faire remorquer avec un perchiste. On lui a dit de dégager.
C'est-à-dire que concrètement, on peut aller à l'affrontement.
Ah oui, oui.
Vous
oui.
Le voyez, vous
Non, pas à l'affrontement, mais on montre, on est chez nous, on attend la date. Quoi. Ils attendaient le 31 octobre, maintenant ils attendent le 31 janvier.
Oui, c'est-à-dire que si la date elle est confirmée un jour ou l'autre officiellement, là, ils ne prendront plus des pincettes pour vous le dire.
Non, mais de toute manière, dans tous les cas, si le 31 janvier, il y a un Brexit dur, les bateaux français ou... Et nos amis de la communauté européenne sortiront des eaux anglaises. Si c'est pour se faire saisir les bateaux en Angleterre, c'est pas la peine. On a perdu d'avance.
C'est ça aujourd'hui, alors c'est pas le Brexit dur, mais on est sur cette date du 31 janvier. C'est là-dessus que vous travaillez, par exemple, vous, les pêcheurs de Bretagne, Olivier Lenezet.
Mais écoutez, c'est très simple. Ce qu'a dit Dominique, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il y a déjà des approches où le Royaume-Uni et les pêcheurs anglais font comprendre à tous les navires européens il faut se préparer à la sortie.
Ouais.
Avec ou sans accord. C'est-à-dire que d'un côté ou de l'autre, de toute manière, même s'il y a un accord, ils feront tout ce qui est en leur possibilité d'empêcher les navires français et européens de travailler dans leurs eaux. Soit en prenant la place des zones de pêche, soit en intimidant les navires, soit en faisant des surcontrôles qui feront que les bateaux abandonneront ces zones de pêche à terme. Maintenant, le vrai sujet, c'est comment fait-on pour pouvoir rapatrier des navires européens, français, mais aussi européens, pour éviter qu'il y ait un déplacement important des navires, parce qu'il faut quand même pas oublier que ces navires qui naviguent dans ces eaux du Royaume-Uni sont des navires quand même assez grands.
Il y en a combien d'ailleurs ?
Pour ce qui est la Manche, c'est-à-dire Bretagne, Normandie et Hauts-de-France, les navires concernés à plus de 20% de leur activité, c'est à peu près 450 navires. Mais si on prend au niveau européen, c'est plusieurs milliers de navires qui vont devoir se rabattre. Donc là, on est vraiment sur une approche où il faut à tout prix éviter qu'il y ait une bataille navale comme on a connu dans les années 70, je l'ai rappelé tout à l'heure, mais les années 70-80, la bataille de l'Anchois, le Filamayan dérivant dans le golfe de Gascogne, parce que là où les navires viendront, ce sera dans le sud de l'Irlande et en Bretagne, Bretagne Nord et golfe de Gascogne, parce que le plateau continental fait qu'à aujourd'hui, c'est des grandes zones de pêche qui peuvent être pris par d'autres navires. Sauf que la problématique, c'est qu'il y a des réglementations communautaires qui font que tous les navires ne pourront pas se redéployer ailleurs. D'ailleurs, je le dis officiellement, il faut que l'Union européenne fasse une pause dans toutes ces réformes qui sont en cours, qu'ils soient de la politique commune des pêches, mais aussi au niveau français.
Vincent Chamaret, vous vouliez ajouter quelque chose ? Vincent Chamaret, oui.
Oui, juste rajouter, parce que c'est très intéressant tout ce qui est dit, mais malgré tout, le poisson étant pêché, il va falloir le vendre. Et d'où l'importance que nous avons mis pour bloquer les entrées des produits qui arriveront de hors communauté européenne, donc du Royaume-Uni, lorsqu'il y aurait éventuellement un Brexit dur.
Oh bah ça, j'ai l'impression que Dominique Thomas applaudit dès demain quand vous dites ça, non ?
Oui, effectivement.
Ouais.
Parce que si nous, on ne peut plus aller dans les eaux britanniques, je vois mal les pêcheurs laisser le bateau le long du quai et voir du poisson arriver à Roscoff ou à Boulogne ou, en sachant qu'il y a 75% du poisson anglais qui est travaillé à Boulogne et le reste à Lorient. Alors, il va falloir qu'ils mangent autre chose que des fish and chips.
On leur proposera autre chose à nos amis britanniques. Il nous reste une petite minute. Rapidement, le 31 janvier, vous y croyez cette fois ou pas ?
Jean-Marc Rouet.
Une chose est sûre, c'est que le Brexit arrivera.
À un moment ou à un autre.
Comme je l'ai dit tout à l'heure, je pense que le Brexit dur est derrière nous. Maintenant,
ça, c'est la bonne nouvelle quand même de ces dernières semaines.
Oui, enfin, je ne prendrai pas de pari sur les élections quand même. Hein. C'est toujours, toujours un petit peu compliqué. Pour la pêche, comme Olivier ne l'a pas dit tout à l'heure, mais accéder aux eaux, c'est une chose. Avoir du quota, c'en est une autre. Donc, malgré tout, même si le Brexit va se faire, on n'a pas toutes les conditions d'exploitation à l'avenir.
En quelques secondes, en ce qui vous concerne, vous, pour les pêcheurs bretons, quand même, la donne a changé ces derniers jours ou pas ?
Pas du tout.
Non, vous êtes toujours aussi inquiet.
On n'est toujours pas rassuré, loin de là, et je dirais même qu'on est plus inquiet de jour en jour à partir du moment où on voit très bien les choses qui vont se dérouler, que ce soit à Boulogne, ou que ce soit à Lorient, ou que ce soit en Bretagne Nord. Et je tiens juste à rappeler, c'est qu'il ne peut pas y avoir, un pays qui sort de l'Europe ne peut pas être gagnant à partir du moment où on quitte l'Union européenne. Par contre, une chose est sûre, c'est qu'on est aussi sur de la sécurité alimentaire. Et si demain, les navires européens n'ont plus accès aux eaux du Royaume-Uni, il en va aussi de la sécurité alimentaire, que ce soit de poissons agricoles. Et donc, il faut à tout prix que les États et l'Union européenne, on va dire, avec le Royaume-Uni, trouvent un accord de réciprocité des eaux et de la ressource.
Un dernier mot pour conclure ce journal inattendu spécial Brexit. Vincent Chamaret, est-ce qu'aujourd'hui, les patrons d'entreprises que vous avez en ligne, vous avez mis en place une hotline pour les aider, est-ce qu'ils sont un petit peu moins inquiets qu'il y a quelques semaines avec la perspective d'un Brexit dur ?
Disons que ce qu'on a là espéré depuis un an, c'est de les informer suffisamment avec nos partenaires des douanes, des problèmes sanitaires, etc. Donc ils sont mieux informés qu'ils ne l'étaient il y a un an et que éventuellement cette sortie qui ne serait pas un hard Brexit permet de penser que l'Angleterre ne devienne pas un pays tiers. Le pays tiers, ça veut dire pour beaucoup d'entreprises bretonnes la grande inconnue et donc la difficulté d'exporter. Donc on va dire que oui, il y a eu un progrès depuis un an, mais qu'on continuera et qu'on va suivre les échéances. Moi, l'échéance que je garde, c'est surtout le 12 décembre, c'est le résultat des élections en Angleterre.
Ah bah évidemment, le 12 décembre et on aura l'occasion d'en reparler. Merci à vous tous d'être venus ici à Roscoff. Merci à Roscoff au restaurant C'est ici de nous avoir accueillis. Et puis que ce soit le 12 décembre ou le 31 janvier où on reparlera du Brexit, évidemment, restez bien fidèles à l'écoute d'RTL. Dans un instant, ce sera Jean-Alphonse Richard pour Confidentiel consacré à Luciano Pavarotti. À samedi prochain pour un journal inattendu. Plus traditionnel. Merci.
RTL, le journal inattendu.